vidéo, CD
numérique, blog, internet,
Netflix,
podcast,
monde, convergence,
blogosphère,
Dominique Dezonné.
Bonjour et bienvenue dans Net Plus Ultra, du côté de notre cyber-entretien, un spécial mois d'août. Histoire d'un pionnier de l'informatique en collaboration avec l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, l'INRIA. 40 ans d'histoire de l'INRIA. Et cette semaine, informatique et sécurité logicielle, dans quelques instants, avec nos invités. Dans Net Plus Ultra, les bêta-testeurs, avec Tom Bouillu, André Navarro, nous testons sites, logiciels, matériel, internet. Et puis, il y aura des images numériques pour le 21e siècle en collaboration avec la société Nvidia, fabricant de processeurs graphiques. C'est vrai, aujourd'hui les processeurs graphiques seront de plus en plus performants, beaucoup plus performants d'ailleurs que les processeurs de nos ordinateurs. Et cette semaine, nous intéresserons aux images en haute définition, mais pour le téléphone mobile, en compagnie de Stéphane Quentin de Nvidia.
Net Plus Ultra, en un seul mot, @rfi.fr.
Les bêta-testeurs.
Envoyez-nous vos demandes de test, nous sélectionnons celles qui peuvent intéresser le plus grand nombre. Si votre mail est retenu, vous recevrez une clé USB 2 de 2 gigas, une nacre blanche de Denelec, avec l'encyclopédie Larousse intégrée, mais il ne faut pas oublier d'indiquer vos noms, prénoms et adresses postales. André, bonjour.
Bonjour Dominique.
Bonjour Tom.
Bonjour.
Le test du jour, André,
est proposé par Djabé Lucien de N'Djamena au Tchad. Pouvez-vous tester le logiciel Supercopié?
Lorsqu'on a besoin de transférer de gros fichiers via Windows, le gestionnaire de copies de Windows n'est pas vraiment pratique. Il est donc extrêmement risqué de lancer un téléchargement long avec Windows. En cas de déconnexion, il faudra recommencer l'opération.
Supercopier permet de résoudre ces problèmes en se substituant à la fenêtre de progression qui s'affiche lors de la copie ou du déplacement des fichiers sous Windows.
Cette application permet d'interrompre une copie et de la reprendre ultérieurement, ou encore de limiter le débit afin de ne pas saturer l'utilisation de votre disque dur.
Si un fichier est déjà présent dans le dossier en cours, vous aurez la possibilité d'écraser ce fichier, d'annuler la procédure ou bien de reprendre le transfert là où vous l'aviez interrompu.
Une icône dans la barre des tâches permet d'activer ou d'interrompre le fonctionnement de Supercopier en quelques clics.
Ce logiciel est extrêmement efficace, tout particulièrement en réseau, et il faut noter qu'il affiche de bonnes vitesses et de bons temps d'attente, contrairement à celui de Windows.
Très bon soft gratuit qui permet, par le réglage du taux de transfert, de résoudre les problèmes de redondance cyclique qu'on a souvent lorsqu'on essaie de copier des fichiers d'un CD un petit peu abîmé ou mal gravé.
Côté critique, pour copier un dossier contenant des petits fichiers d'une partition à une autre, ce logiciel met deux fois plus de temps que Windows en ayant paramétré à la vitesse maximum, évidemment.
On a aussi noté qu'après être resté activé plusieurs heures, il peut faire planter Explorer. Il faut donc l'activer quand on en a besoin et ensuite le désactiver.
Verdict, un logiciel extrêmement pratique. N'hésitez pas à le télécharger car il est gratuit. Dans Net Plus Ultra, des images numériques pour le 21e siècle en collaboration avec Nvidia. Avec Stéphane Quentin de Nvidia cette semaine, des images en haute définition. Oui, mais pour la téléphonie mobile.
Net Plus Ultra. @rfi.fr.
En bref, l'actu des TIC, en bref, sur la planète, en bref.
Stéphane Quentin, bonjour.
Bonjour Dominique.
Quel rapport entre l'image et un son téléphone?
Sur les téléphones, aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment des téléphones, ce sont des smartphones. C'est-à-dire qu'on fait de la photo, on fait de l'encodage, enfin, on regarde des films, on fait un peu de jeux vidéo. Ça arrive en France un peu moins, mais là, ça commence à monter. Vous allez en Asie, ils ont tous leurs jeux sur leur téléphone. En fait, une puce graphique, aujourd'hui, elle est également nécessaire dans un téléphone portable.
Alors jusqu'à présent, c'est vrai, en Europe, on est un peu habitué à ces téléphones où il n'y a pas intégré ces fameuses petites puces qui permettent d'accélérer un petit peu l'image.
On n'était jusqu'à présent pas habitué. On a un usage vraiment commun du téléphone, en général en Europe, c'est-à-dire qu'on fait du téléphone pur. Arrive le photophone depuis 2 ans. Le photophone, on est passé de 1, 2, 3, 4 millions de pixels. Quand vous prenez une photo, ça prend à peu près 10-15 secondes pour qu'elle s'enregistre, elle se compresse. Et donc les puces GoForce que Nvidia met dans certains téléphones permettent d'avoir un encodage JPEG instantané. Donc c'est effectivement ce genre d'usage qui permet dans un téléphone, dans un smartphone plus exactement, d'avoir un agrément d'utilisation vraiment bien supérieur.
Si on comprend bien, à un moment donné, la puce, elle travaille, elle compresse, entre guillemets, à la volée. simplement la photo, par exemple, que l'on prend.
Elle compresse à la volée la photo en JPEG. À 1 million de pixels, c'était facile pour des CPU de téléphone de le faire. Maintenant, à 2-3 millions de pixels, il faut vraiment être assisté par une puce spécialisée. Donc, on a parlé du photophone du JPEG, mais quand vous allez avoir la télé, par exemple, sur votre téléphone, puisque ça arrive en France, quand vous allez pouvoir lire des vidéos haute définition sur votre téléphone, vous avez besoin d'une assistance au décodage. Et cette assistance permet, en plus, de consommer moins de watts, donc de gagner en autonomie.
Alors, on gagne en autonomie, on gagne en qualité, parce que, bien évidemment, il faut un rendu.
Le rendu, là, on a parlé photo, image, c'est des puces qui peuvent traiter sur des millions de couleurs, donc on a une qualité de rendu qui est supérieure, mais il y a également le point jeu vidéo. Nvidia, historiquement, est connue pour son accélération 3D. Il est bien évident que dans ces puces GoForce, nous avons mis de l'accélération 3D, donc on a de l'OpenGL ES, qui est le langage de communication dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, sur ces téléphones-là, on est tout à fait capable de jouer à Quake, de jouer à Doom, et on va bientôt pouvoir jouer à Far Cry. Donc vous aurez Far Cry sur votre petit écran de 3 pouces. Mais encore une fois, dans le domaine de la téléphonie, les jeux sont encore à inventer, puisque les usages sont différents que sur le jeu PC. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des smartphones qui sont capables de faire tourner Far Cry sur un écran 3 pouces avec une qualité identique à celle du PC.
Est-ce qu'on bénéficie quand même de la petitesse de l'écran? C'est-à-dire ça améliore quand même l'image?
Oui, l'écran est petit, mais la densité par pixel a tendance à augmenter. Aujourd'hui, on a plusieurs millions de pixels sur un écran 3 pouces. Donc, c'est pas parce que l'écran est petit, effectivement, qu'on va pas avoir une belle qualité d'image. Maintenant, il faut pouvoir les calculer, ces pixels, avec une consommation minimale possible. Un exemple, aujourd'hui, on prend la dernière des cartes 3D disponibles. Elle va consommer facilement 150 watts. Et là, on va prendre ces puces GoForce. Elles font le même travail pour 15 ou 20 milliwatts. Donc, on est dans un monde où, justement, on travaille sur l'extrêmement petit et l'extrêmement économique pour avoir un rendu le mieux possible.
Est-ce qu'il y a des puces par téléphone ou est-ce que c'est un petit peu standardisé tout ça?
On a aujourd'hui une gamme de produits, on en a 3 ou 4 hein, qui permettent d'aller simplement de la puce qui fait de l'encodage JPEG ou du décodage vidéo jusqu'à la puce 3D ultra performante qui va permettre de jouer sur des téléphones. C'est très standard au niveau du kit de développement, c'est-à-dire qu'on a des environnements, des téléphones sont tous un peu pareils. Maintenant, on a une différence de puissance. Donc la prochaine révolution, en fait, ça sera quand les développeurs de jeux viendront vous voir en vous disant « Voilà, j'ai sorti tel jeu sur téléphone et il faut tel produit pour y jouer. »
Résultat des courses, on va avoir des téléphones extrêmement intelligents, capables de décoder beaucoup de choses, y compris des jeux vidéo, qui restent encore à inventer. C'est vrai qu'actuellement, on prend les jeux classiques et on les porte sur des plateformes. Mais bientôt, il va falloir inventer de nouveaux usages.
Exactement. En fait, le domaine du jeu sur téléphone est en pleine explosion. Jusqu'à présent, c'était simplement des portages, des jeux console, des jeux PC, mais on revient petit à petit à des jeux spécifiques sur la téléphonie, puisqu'on a envie d'avoir un jeu qui se joue en 2 minutes peut-être.
Et en réseau.
Il va y avoir sûrement certains types de jeux qui auront la double étiquette, qui se joueront sur le PC, mais vous pourrez toujours être en relation avec votre personnage, votre avatar virtuel dans le jeu, grâce à votre téléphone portable et continuer un peu à jouer ou à lui faire quelques petits trucs.
Et puis aussi, chose importante, c'est dans le domaine du GPS, quand on va l'intégrer totalement dans le téléphone mobile. On se dit, bah là, effectivement, on aimerait bien avoir une vraie simulation en 3 dimensions de notre chemin.
Avant la 3 dimensions qui arrive évidemment très rapidement, il faut déjà mapper toutes ces cartes qui sont sur les GPS classiques. Donc on va d'abord avoir un usage 2D qui a besoin de puissance de toute manière 2D. Et après, il est clair que dans les 2 ans qui viennent, on aura des GPS qui seront intégrés dans les smartphones en 3D avec une mise à jour, notamment via Internet ou différents réseaux, de l'affichage. Donc là, encore une fois, on aura de plus en plus besoin de puissance 3D.
Merci Stéphane, à la semaine prochaine.
Net plus Ultra.
La face cachée du net.
Pour ou contre.
La face cachée du net.
Pour ou contre.
Le cyberdébat.
Pour ou contre.
Pour ou contre.
Pour ou contre.
Le cyberdébat.
Antoine Petit, bonjour.
Bonjour.
Aline Ria, on se pose aussi souvent des questions, notamment cette informatique qui nous emmène très très loin, avec ce sujet sur la sécurité. C'est vrai que nous vivons un monde où l'informatique est réellement présente à tout niveau, qu'on soit par exemple entrepreneur ou dans la vie quotidienne. Mais il y a ce petit frein, on se dit, mais est-ce que c'est sûr? Lorsque je suis sur un réseau, est-ce que c'est sûr? Est-ce que je vais pas me faire pirater, spammer? Ces histoires de sécurité, c'est une des préoccupations de l'INRIA.
Absolument, c'est une des préoccupations de l'INRIA. J'ai envie de dire, depuis la création de l'INRIA il y a près de 40 ans, la sécurité a toujours été liée au développement de l'informatique. C'est-à-dire qu'un logiciel, c'est par définition quelque chose qu'il faut vérifier. C'est pas sûr en soi. Aujourd'hui, si on fait une analogie avec les ponts, vous montez sur un pont sans vous poser la question de savoir si le pont va se casser la figure, parce que vous savez que derrière, les gens qui ont construit un pont l'ont fait avec méthode. Et bien en fait, tous les aspects informatiques, c'est la même chose. Simplement, c'est une science qui est plus récente. Et donc, nous travaillons sur construire des méthodes pour s'assurer que les logiciels, comme les ponts, j'ai envie de dire, sont sûrs. Mais on est dans un domaine où les logiciels sont de plus en plus complexes, de plus en plus présents, et que ce qui était il y a jusqu'à récemment une affaire de spécialistes devient l'affaire de tout le monde. Et il est clair qu'il faut développer des méthodes qui fassent en sorte que lorsque vous utilisez un logiciel, lorsque vous utilisez un réseau, lorsque vous faites une transaction par Internet, que vous achetez vos billets d'avion ou ce que vous voulez, vous souhaitez avoir des garanties que ces logiciels sont sûrs. Et ça demande du travail, ça demande de la modélisation mathématique, et c'est effectivement un des sujets sur lesquels l'INRIA travaille depuis de très nombreuses années.
D'ailleurs qu'on va très très loin, on peut même donc modéliser le fait qu'il y ait, allez, du bug et voir quel est le comportement du système en entier à ce moment-là.
Absolument, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'un bug arrive, c'est qu'en fait il y a eu une suite d'événements chacun peu probables, la suite étant encore moins probable, mais malgré tous les tests qu'on a pu faire, cette suite d'événements improbables n'a pas pu être prévue. Les méthodes que nous développons consistent à construire des modèles, en fait, des logiciels qui fassent que, quels que soient les scénarios possibles, alors les logiciels sont sans bug. Alors, pour être plus précis, ce que nous vérifions, c'est souvent la partie qu'on appelle critique de tel système. C'est-à-dire que si votre écran, par exemple, s'éteint quand vous êtes en train de taper votre document Word, vous n'êtes pas très content, mais bon, vous
rebootez. Il n'y a pas mort d'homme.
Si par contre, c'est comme ça avait été le cas, je sais pas si vous en souvenez, le premier vol d'Ariane 5, que de la fusée avait été obligée d'être détruite, il n'y avait pas eu mort d'homme parce que c'était une fusée sans passagers.
Mais des dégâts financiers.
Des dégâts financiers et des dégâts d'image absolument énormes. En fait, on s'est rendu compte, il y a une commission d'enquête, que le bug était en fait un peu bête, puisqu'on avait pris le logiciel d'Ariane 4, qu'on avait mis sur Ariane 5 en disant que si ça tournait sur Ariane 4, ça allait évidemment tourner sur Ariane 5, sans qu'on avait oublié un petit détail, c'est qu'on passait d'un calculateur 16 bits à un calculateur 32 bits, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça suffit pour planter le système, parce que trop souvent encore, on dit « Ah oui, mais l'informatique, c'est facile, tout le monde fait l'informatique ». En fait, les objets que nous construisons, les logiciels que nous construisons, sont en fait des objets d'une complexité effroyable. Et donc, encore une fois, on a besoin de méthodes pour tenter de les vérifier et faire en sorte que lorsqu'ils sont utilisés, eh bien, on le fait en toute sécurité pour les utilisateurs.
Alors, nous sommes aussi avec Benjamin Werner. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, vous allez nous prouver qu'en partant, on va dire, un petit peu de la théorie, on peut trouver facilement par le calcul, enfin facilement, j'imagine que non, mais qu'il y a des théorèmes pour prévenir un petit peu ces catastrophes informatiques sur un ensemble de programmes qu'on aurait fabriqués.
Une chose qui est frappante, c'est quand on parle de sécurité informatique, là très naturellement dans ce qui vient d'être dit, on passe de sécurité à sûreté, et sûreté c'est vraiment très littéralement être sûr, on veut être certain. Et dans toute l'industrie, disons, de la sûreté, de la sécurité informatique, la grande question c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas de bug, est-ce qu'on n'a pas oublié un cas, disons, pour schématiser. Et ça peut prendre des formes diverses et variées, mais dans tous les cas, le seul outil dont on dispose pour être certain de ne pas s'être planté, c'est ce qu'on a appris à l'école finalement, c'est la démonstration, et c'est une démonstration de type mathématique.
Alors une sorte de théorème à appliquer.
Absolument.
Une preuve par trois, mais qui serait très complexe.
Donc il y a une première partie du travail qui est d'énoncer formellement la propriété du programme, et ça explique que Windows par exemple, c'est quelque chose dont il est difficile de prouver qu'il n'y a pas de bug. Si on veut simplement énoncer tout ce que Windows doit faire, ça serait un théorème qui serait trop gros, qui ferait plusieurs livres et on
n'y arriverait pas.
Voilà. Ouais. Ce qui explique qu'on se concentre effectivement sur des logiciels critiques qui sont d'une part critiques importants et d'autre part relativement ciblé et bien compris.
En fait, il y a une sorte de périmètre d'application.
Il y a un premier travail qui est d'énoncer la propriété que le programme doit vérifier. Par exemple, comme dans le cas d'Ariane, qu'il n'y ait pas de débordement arithmétique, que le programme va continuer à tourner, qu'il ne va pas cracher.
Ça, c'est un premier niveau de sécurité.
Ça, c'est un premier niveau, absolument. Et ensuite, si on veut obtenir des niveaux supérieurs, on va faire la preuve. Et le problème qu'on a, c'est que la preuve d'un programme informatique, c'est quelque chose qui est assez long, qui est assez répétitif, et surtout on n'a pas droit à l'erreur. Si je fais un article de mathématiques, si j'ai une petite erreur dans un coin qui est facilement corrigeable, personne ne m'en voudra. Par contre, dans le cas du programme informatique, même si le programme est correct dans l'esprit, il va quand même planter. Et puis à ce moment-là, la fusée sera quand même au fond de l'eau ou des milliards auront été détournés d'un compte bancaire. Donc il faut vraiment du zéro défaut.
Mais est-ce que c'est possible le zéro défaut, même en informatique? Expliquez-moi.
Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est que justement l'outil dont on dispose pour maîtriser la complexité informatique, c'est à nouveau l'informatique. C'est-à-dire qu'on va soigner le mal par le mal, quelque part, et on va utiliser les programmes pour vérifier que d'autres programmes sont corrects. Un exemple connu qui est un petit bout de démonstration. Si je dis tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, ce petit bout de raisonnement, sa correction n'a rien à voir avec qui est Socrate, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que ça veut dire mortel. C'est juste la syntaxe, en fait, des deux hypothèses, Socrate est un homme, les hommes sont mortels, qui permet d'arriver à la conclusion de manière correcte. Et le fait que ce soit juste la syntaxe, donc des symboles qu'on pousse.
Ce qui était faux d'ailleurs, parce qu'il est assez immortel, ne serait-ce que par ses écrits.
Absolument. Mais sous les hypothèses données, on peut arriver à cette conclusion de manière sûre. Il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour le constater. Et donc, on va être capable de vérifier une preuve mathématique avec une machine, à condition de la détailler suffisamment. L'ordinateur va être capable de vérifier qu'elle est composée uniquement d'enchaînements corrects. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va utiliser, c'est pas justement l'intelligence de la machine, c'est au contraire quelque part la bêtise, ou le manque d'imagination
qui est capable de répéter des lignes et des lignes et des lignes.
Voilà, c'est un bureaucrate professionnel. Voilà. Et à cause de ça, quand une démonstration est vérifiée par la machine, on est capable de lui faire, disons, la plus grande confiance possible. On a parlé de certitude. Il y a un certain nombre de faits mathématiques. Par exemple, le dire que tel ou tel très grand nombre est un nombre premier. C'est typiquement une proposition mathématique. C'est des faits mathématiques qui sont vrais, mais on ne pourra s'en assurer qu'en utilisant le calcul informatique. Oui. On arrive aujourd'hui à fabriquer des nombres premiers qui sont très grands, qui sont des milliards de fois plus grands que ce qu'on arrive à faire.
Qui servent notamment pour les banques, hein, voilà. Pour le codage, c'est extrêmement important.
Et qui, dans ce cas-là, effectivement, seront utilisés de manière très très concrète, avec des espèces sonnante et trébuchante à la clé. On observe un enrichissement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la théorie, de la logique mathématique pour l'industrie, pour certifier la correction de programmes. Mais on va aller aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va prouver des propriétés de programmes, on va les faire tourner et on va dire, puisque j'ai prouvé que tel programme est correct, je peux être sûr que tel théorème mathématique qui est vérifié par ce programme est lui-même correct.
Et après, donc ça s'enrichit mutuellement.
Voilà, exactement. Voilà. Donc on a une espèce de cercle vertueux, disons.
Alors revenons à notre sécurité côté informatique, la sécurité, il y a quand même quelque chose en quoi on doit croire, c'est aussi le fait que l'humain, peut-être, devrait accepter le verdict de la machine. On l'a vu aussi, il y a les machines à voter électroniques, alors c'est sécurisé, c'est bien accepté. Là, les mathématiques ne nous ont pas beaucoup aidés.
Là, je crois que c'est vraiment un exemple dans lequel il faut convaincre. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé technique, on a parlé preuve, au fond, mathématique de logiciel, et là, on se rend bien compte que dans une histoire comme les machines à voter, il faut convaincre les gens. Mais au fond, il faut les convaincre, non pas avec des preuves mathématiques que la plupart seraient bien
en mal de comprendre,
mais simplement, il faut alors essayer de les convaincre qu'une machine à voter électronique est potentiellement nettement plus fiable que tous les gens qui peuvent compter et recompter les bulletins. Alors c'est vrai aussi que ces machines peuvent être falsifiées. Pas plus que les humains, sauf que là on a beaucoup d'humains et on remplace beaucoup d'humains par une seule machine. Mais il est amusant de voir à quel point ces machines à voter semblent un peu, pour certains, le diable, alors qu'au fond c'est beaucoup plus fiable et les programmes qu'il y a dans les machines à voter sont d'une simplicité absolument enfantine. Mais c'est vrai que cette acception par l'humain de la sécurité, qu'on retrouve dans des exemples comme le commerce électronique ou dans le dossier médical électronique, c'est toute une dimension nouvelle qui d'ailleurs donne lieu aussi à des nouvelles recherches qui sont à l'interaction entre les sciences humaines et sociales et l'informatique et les mathématiques appliquées, où là il faut vraiment rentrer dans la preuve, si on peut dire, bien que ce ne soit pas réellement une preuve, mais rentrer dans la boucle, disons, l'humain et son acception de techniques nouvelles pour lesquelles il a souvent a priori une certaine défiance.
Alors si on veut constater de visu ou quelque part sur une RIA, j'imagine, sur le site, ce que ça peut donner le mariage entre les mathématiques et les applications des grands programmes informatiques, on va où ?
On peut aller sur le site de l'INRIA, donc le site de l'INRIA c'est www.inria.fr et à partir de là, vous avez des sites pour de vulgarisation, comme un site qui s'appelle Interstice, qui est fait par l'INRIA, mais en collaboration avec le CNRS et d'autres organismes, qui est précisément fait pour que le grand public, un tout petit peu cultivé, disons, mais quand même le grand public, puisse essayer de comprendre la nature des recherches qu'on mène en informatique sur la sécurité, mais sur d'autres sujets également, avec des exemples qui se veulent ludiques. C'est un site qui, a priori, permet à tout un chacun de mieux comprendre la réalité des recherches que nous menons. Merci.
Interactivité, numérique, multimédia, Internet, Net plus Ultra, podcast. Technobranché. Net plus ultra.
Net plus ultra, Thomas Ferrière, Mathias Gauchani, Tom Bouillu, Dominique Désonnet, André Navarro, nous vous saluons. Vous avez des questions, vous nous écrivez à netplusultra@rfi.fr.